Allô docteur. Allô docteur, sur Radio Orient.
مساء الخير جميعا, اهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا, بونجور à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale santé dédiée aujourd'hui à un sujet qui concerne de nombreuses familles, surtout quand on parle des enfants et l'asthme chez l'enfant. Nous avons le plaisir d'accueillir une spécialiste pour nous éclairer sur ces problématiques de plus en plus fréquentes avec nous, docteur Myriam Zakaria, pédiatre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, docteur Myriam Zakaria.
Merci à toi Zohour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment très honorée de venir aujourd'hui pour vous parler de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, notamment en cette période printanière où l'asthme et les allergies reviennent et font fureur.
Alors, beaucoup de parents se demandent quand parle-t-on d'asthme chez un enfant ? Parce que c'est vrai, avant 2 ans, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de respiration. Mais est-ce que c'est vrai, c'est un problème d'asthme ou c'est un autre problème chez les enfants ?
Alors, en effet, l'asthme de l'enfant débute à partir de l'âge de 5 ans. Avant l'âge de 5 ans, on peut parler d'hyperréactivité bronchique. On peut également utiliser le terme d'asthme du nourrisson ou d'asthme du jeune enfant, mais ce n'est pas l'asthme qui va persister,
c'est la pas maladie chronique. Les bronchiolites, chronique. Docteur ?
Alors les bronchiolites, en effet, Zohour, tu as raison de parler de ce terme-là. Quand on a plusieurs bronchiolites, on parle d'asthme du nourrisson. Tout à fait. C'est un terme qui est utilisé parce que le mécanisme de l'asthme du nourrisson et du jeune enfant correspond au mécanisme de l'asthme de l'enfant. Mais l'asthme du jeune enfant avant l'âge de 5 ans, souvent va guérir. Il faut savoir que l'asthme du nourrisson, Zohour, ça concerne 1 bébé sur 3, ce qui est énorme. Alors que finalement, l'asthme réel, celui qui va persister, celui qui représente une maladie chronique de l'enfance et qui peut se poursuivre jusqu'à l'âge adulte, ça concerne 10% des enfants. Donc en termes de prévalence, on parle de 750 000 enfants en France. Donc, c'est la première maladie chronique chez l'enfant.
Donc, c'est très important d'assurer les parents, parce que j'en ai souffert avec mon fils quand il avait 2 ans. Donc, ça se guérit et il faut confirmer s'il s'agit vraiment d'un problème d'asthme ou non qu'à partir de 5-6 ans. Bien ça, docteur ?
Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. On traite l'asthme du nourrisson et du jeune enfant avec les mêmes traitements que pour l'asthme de l'enfant. Il est très important d'expliquer aux familles, justement, que l'intérêt de traiter, c'est non seulement à court terme d'éviter que l'enfant fasse des crises, des épisodes sifflants qui peuvent potentiellement être dangereux pour sa vie, mais également pour permettre à l'enfant de rentrer en rémission et de lui donner le maximum de chances pour ne pas rester asthmatique.
Alors, c'est quand qu'il faut vraiment les signes d'alerte, il faut consulter, il faut aller voir le médecin, il ne faut pas dire non, c'est un nourrisson, ça va passer.
Alors déjà, devant toute gêne respiratoire, moi je conseille aux famille de consulter au moins une fois un médecin pour savoir à quoi ça correspond. N'est pas forcément une crise d'asthme. Alors qu'est-ce qu'une crise d'asthme ? Une crise d'asthme, c'est une symptomatologie qui peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être une gêne respiratoire et parfois uniquement une toux. Une toux qui est souvent sèche et volontiers sifflante. Donc le sifflement, le fameux wheezing, est très très pathognomonique, c'est-à-dire caractéristique de l'asthme, que ce soit de l'asthme du nourrisson ou l'asthme de l'enfant et de l'adulte. Donc l'asthme, ça peut être de la toux, une toux qui peut être très aiguë, avec une gêne respiratoire, mais ça peut être également une toux qui va persister au décours des rhumes, ou une toux qui va persister pendant plusieurs semaines, notamment la nuit ou au petit matin.
Surtout quand ça tire au niveau du ventre.
Alors, c'est une très bonne remarque. Chez les petits, on peut observer des signes de lutte, c'est-à-dire l'utilisation de muscles accessoires et on peut observer des creux. Alors plus on est petit et plus on va avoir une plasticité et des signes de lutte. On peut voir les côtes qui creusent, on peut voir un creux au-dessus du sternum, on appelle ça le creux susclaviculaire. On peut en avoir un en dessous du sternum et chez les tout-petits, on peut même avoir un balancement entre le thorax et l'abdomen. Donc ces signes-là, c'est uniquement chez les petits. On ne les retrouve plus quand
les enfants
grandissent.
Quand vous parlez des petits, c'est à partir de quel âge ?
Alors moi, quand je dis les petits, c'est jusqu'à 3 ans. Voilà. Entre 3 et 5 ans, on est chez le jeune enfant. Mais on n'est pas encore dans l'asthme véritable. Donc, on peut parler d'asthme du nourrisson, on peut parler d'asthme du jeune enfant. On peut aussi utiliser ce terme qui nous explique dans le terme ce qu'est l'asthme. C'est le terme d'hyperréactivité bronchique. Donc, finalement, on peut très bien dire, voilà, votre enfant présente une hyperréactivité bronchique qui est induite par les infections itératives que l'enfant attrape. Il faut traiter les épisodes avec un traitement adéquat et surtout, il faut traiter entre les épisodes avec un traitement de fond pour justement aller à la cause, traiter la cause. Et quelle est la cause de l'hyperréactivité bronchique? Est-ce que vous le savez? La cause, c'est l'inflammation. C'est une inflammation des bronches. Donc ça va toucher toute la filière respiratoire. Ce n'est pas que l'inflammation du nez, ça va jusque dans les toutes petites bronches et jusque dans les alvéoles.
Vous avez parlé, docteur, d'un traitement de fond. Et généralement, les parents, quand ils entendent le médecin parler de la ventoline, par exemple, ils refusent ça. Ils disent, comment je vais donner la ventoline à mon enfant? Il est encore petit. Donc, c'est une erreur que les parents peut-être font. Ils ne comprennent pas exactement c'est quoi le traitement de fond.
Alors effectivement, quand on prescrit un traitement qui doit être administré sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est indispensable de leur expliquer pourquoi. Parce qu'il est tout à fait compréhensible qu'un parent ne veuille pas donner tous les jours un traitement à son enfant sans être sûr que ça ne soit pas délétère pour lui. Donc la ventoline, vous avez mis le mot sur un traitement qui fait partie de la pierre angulaire du traitement des crises d'asthme. La ventoline, en fait, n'est pas un traitement de fond, mais un traitement de crise. Donc quand on donne de la ventoline, on va le donner pendant quelques jours pendant les symptômes. Et quand les symptômes ont disparu, on va arrêter la ventoline et par contre, on va poursuivre le traitement de fond. Donc la ventoline va en fait agir autour de la bronche, sur les muscles lisses qui entourent les bronches. Et oui, on a des muscles qui entourent nos bronches. Mais ces muscles-là, on ne peut pas les contracter de manière volontaire. Et quand on a une infection ou des infections à répétition, certains enfants vont développer donc une hyperréactivité de ces bronches, c'est-à-dire que les muscles vont se contracter. Et donc on peut imaginer que si le muscle se contracte, la bronche va se resserrer. Et c'est ce qui correspond aux symptômes des crises d'asthme.
Donc, quels sont les facteurs déclenchants les plus fréquents chez l'enfant, docteur?
Alors, les facteurs déclenchants de l'asthme les plus fréquents, en premier lieu, ce sont les infections. Les infections de tout type. Un simple rhume peut déclencher une crise d'asthme. Sur la deuxième place du podium, on retrouve les allergies. Et d'ailleurs, 80% des enfants ont un problème d'allergie. Il existe également d'autres facteurs environnementaux, notamment comme une forte humidité ou au contraire de la sécheresse, les efforts physiques, également parfois les facteurs psychologiques avec un grand stress qui peuvent favoriser le déclenchement d'une crise d'asthme.
Le stress, on parle du stress chez le nourrisson, docteur?
Alors chez le nourrisson, pas exactement. Là, je m'adressais plutôt aux enfants de plus de 5 ans.
En tout cas, c'est un sujet très important, surtout pour les nouvelles mamans qui commencent bien sûr leur vie de maman. Ils s'inquiètent beaucoup quand leur enfant tombe malade. Une fois qu'on suspecte une allergie ou un asthme, que fait-on et quelles sont les étapes du diagnostic, docteur?
Alors, c'est une question qui est très importante. Parce que asthme et allergie, c'est souvent deux sujets qui vont être assez intriqués. Donc l'allergie respiratoire notamment ne va pas débuter dès les premiers mois de vie. Ça débute généralement au plus tôt à partir de l'âge de 18 mois. Donc tous les symptômes qui pourraient vous faire évoquer une allergie respiratoire avant 18 mois, pour le moment, la science n'a pas prouvé que l'allergie respiratoire existait chez le tout petit de moins de 18 mois. Par contre, on peut avoir une authentique rhinite allergique à partir de 2-3 ans. Et en effet, ce n'est parfois pas juste un rhume qui traîne. Quand l'enfant éternue tous les matins, a le nez bouché, a les yeux qui grattent ou les yeux rouges, il faut penser à l'allergie. Effectivement. Et il faut savoir parfois avoir recours à la réalisation de tests ou consulter un médecin pour le confirmer.
Alors, quel est le rôle des tests cutanés, des prises de sang ou des tests respiratoires?
Alors, tout d'abord, à l'interrogatoire, on peut suspecter une allergie. sur les symptômes. Si on veut confirmer si c'est une allergie, on va devoir rechercher à quel allergène on est allergique. Dans ces cas-là, le médecin, s'il est allergologue et habilité à le faire, peut réaliser des tests cutanés qui consistent à appliquer sur la peau des petites gouttes en fait, qui contiennent les allergènes. Par exemple, une goutte d'acarien, une goutte de pollen de bouleau, une goutte de pollen d'un graminé ou des 5 graminées mélangées. Et au bout de quelques minutes, généralement 15 à 20 minutes, on peut lire en fait, on va lire la peau et on va voir s'il y a une rougeur. Ça peut correspondre à une sensibilisation. On peut compléter les tests cutanés avec un bilan sanguin. Et alors, qu'est-ce qu'on regarde dans le bilan ? Eh bien, en tant qu'allergologue, on va volontiers doser de manière unitaire les allergènes. Par exemple, on va doser l'anticorps qui concerne l'acarien, l'anticorps qui concerne le chat. Et on a une réponse fiable des anticorps présents chez l'enfant en question.
Alors, côté traitement, où on est-on aujourd'hui, docteur Myriam Zakaria ?
Alors, au niveau des traitements, c'est un message très important justement que je voudrais faire passer. C'est que l'allergie respiratoire, c'est fréquent, mais ce n'est pas une fatalité parce que justement, il existe des traitements et il existe également des mesures qui peuvent aider les familles à limiter la charge des allergènes en question. Donc, on peut en parler, bien sûr. Donc, d'abord, si on veut évoquer les allergènes, donc en ce moment, on a vraiment les pollens qui sont très, très présents, notamment les pollens de graminées. Mais en ce qui concerne les allergies en général, c'est avant tout les acariens qui arrivent en haut du podium.
D'accord. Donc, y a-t-il des effets secondaires, docteur ? Souvent, les parents, ils ont peur des effets secondaires des traitements que leurs enfants prennent.
Alors, avant d'avoir recours au traitement, on peut déjà avoir recours à des conseils de l'environnement. Donc, en ce moment, en pleine période de pollen, alors, je vous pose la question, à votre avis, est-ce qu'il faut aérer beaucoup la maison ou pas ?
Bien sûr.
Eh bien, justement...
Même s'il fait froid.
Eh bien, justement, c'est là où, concernant les pollens, c'est un grand piège et c'est important que nos auditeurs le sachent. En période de pollen, si vous pensez être sujet à une allergie, il faut surtout fermer vos fenêtres.
D'accord.
Et aérer qu'à certains moments de la journée, très tôt le matin ou tard le soir.
Combien de temps ?
10 minutes suffisent.
D'accord.
Comme ça, on arrive à aérer le domicile, à effectuer notre aération qui est bénéfique en termes anti-acariens, parce qu'il faut aussi penser à nos acariens qui sont là toute l'année. Et il faut éviter absolument de laisser les fenêtres ouvertes. Et pareil dans la voiture. Dans la voiture, il faut penser à fermer vos vitres. Et si vous sortez en extérieur, si vous faites une balade, pensez quand vous rentrez chez vous à changer vos vêtements. Et si vous prenez une douche, prenez-la plutôt quand vous rentrez à la maison. Si vous sortez avec les cheveux mouillés en extérieur le matin, ça va vraiment faire une adhésion des pollens sur vos cheveux, qui vont rester sur les cheveux, sur les cils, sur les sourcils. Et quand vous allez rentrer chez vous, eh bien, vous allez ramener plein de pollens chez vous. Et il y aura une grande concentration.